donc notre étude est sur l'évangile de Marc. C'est vrai que ce mois-ci, on a eu trois mardis, donc trois études, des études bibliques. Le premier mardi, on avait vu quand Jésus a marché sur l'eau. Ensuite, on a vu les guérisons que Jésus faisait à Génézareth. Et ce soir, nous allons voir le chapitre 7, qui est plus long, parce que les autres, c'était 3-4 versets. Là, on va essayer de terminer le chapitre 7. Donc, c'est vrai qu'on ne pourra pas le détailler vraiment en tout dans le détail. On va le voir un peu en gros. Alors, c'est vrai que vous avez tous les feuilles.
Oui.
Si vous voulez, ce chapitre 7, je l'ai partagé en trois parties. La première partie, nous allons voir les traditions des hommes ou le commandement de Dieu. En deuxième partie, on verra une païenne bénie pour sa foi. Et en troisième partie, on verra la guérison d'un sourd muet. Alors, donc, il faut savoir qu'on progresse toujours dans la section qui s'étend depuis Matthieu, le chapitre 6 et verset 6, jusqu'au chapitre 8, verset 21. C'est toujours sur l'autorité de Jésus. On a déjà vu dernièrement que Jésus avait autorité sur les éléments, etc. Donc c'est toujours dans ce contexte-là, on va parler de l'autorité de Jésus. C'est vrai qu'ici nous avons un long passage de discussion entre les pharisiens et les scribes qui discutent avec Jésus sur les traditions. Alors je vous propose de lire Marc au chapitre 1 jusqu'au verset 23.
Le 7.
Oui, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 23.
Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne se soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. Je continue ou jusqu'à la fin ou pas? Oui. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent, disant « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Mais lui, répondant, leur dit « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, de laver des pots et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire don, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres, et vous faites beaucoup de choses semblables. Et ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi, vous tous, et comprenez, il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant en dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent, touchant cette parabole. Et il leur dit, êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans les lieux d'aisance, purifiant toutes les viandes? Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans, du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme.
Ouais, merci. C'est quelle version que tu as?
Darby.
D'accord.
C'est compliqué, je me suis dit qu'elle est compliquée.
Non,
c'est parce que
Non, quand on suit avec une autre, en plus, c'est bien. Parce que...
C'est bien. Bon, en fait, on peut... Alors, cette première partie-là, de 1 jusqu'au verset 23, je l'ai partagée aussi en deux parties, c'est-à-dire la première partie, on va voir le dialogue des pharisiens et des scribes, ce dialogue qui se fait avec Jésus. Et puis, en deuxième partie, c'est Jésus va expliquer à ses disciples ce qui est impur. Alors, la première partie. Donc, on a vu que les pharisiens et les spécialistes de Jérusalem débattent avec Jésus. Ce qu'ils font, ils accusent les disciples de Jésus. Les pharisiens et les scribes étaient des chefs religieux juifs et qui avaient conçu un vaste système de traditions qui était assez rigide, mélangé avec la loi de Dieu et leurs traditions, qui avait fini par revêtir presque la même autorité que la loi de Dieu. Les pharisiens se plaisaient et à imposer des règles. Et déjà là, en lisant ça, je m'étais dit la première question, attention à nous aussi de ne pas imposer des règles. Dans le verset 2 à 4, on voit que les pharisiens et les scribes cherchent une occasion de contrer Jésus en parlant de ses disciples. Ils accusent les disciples de prendre le repas sans qu'ils se lavent les mains. Alors c'est vrai que ce n'était pas une question d'hygiène, hein, c'est pas pour ça qu'ils les reprennent, mais plutôt que les disciples de Jésus ne respectaient pas le cérémonial imposé par leur tradition. Donc la tradition déclarait que si on ne se lavait pas les mains jusqu'au coude, eh bien on était rituellement impur. La tradition aussi disait qu'après avoir fait son marché, eh bien, il fallait être purifié, c'est-à-dire il fallait prendre un bain aussi pour être purifié. Et ce système de tradition s'appliquait aussi, on l'a lu, avec les lavages des récipients, des coupes et des cruches. C'était tout un rituel qu'il fallait faire. Ça, c'est dans les versets 2 à 4. Alors, dans les versets 5 à 8, on voit que les pharisiens demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne suivent-ils pas la tradition. Et bien sûr, on sait qu'en tant que maître, Jésus était responsable de leur conduite. C'était aussi une façon pour eux d'accuser aussi Jésus de ne pas suivre la tradition des anciens. Alors, en réponse à ces attaques, eh bien, Jésus ne va pas faire allusion à la conduite de ses disciples. Mais Jésus va soulever deux questions. La première question qui va être soulevée, c'est savoir la véritable source de l'autorité ou est-ce que leur tradition était vraiment l'autorité venant de Dieu. Et on le voit dans les versets 6 à 8. Bon, on a lu, on ne va pas le relire parce que je voudrais quand même qu'on puisse finir sous le chapitre 7. Mais on a lu dans le verset 6 et 8, Jésus cite presque mot pour mot le livre d'Ésaïe au verset 29, verset 13. Jésus, on voit qu'il ne va pas par quatre chemins. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit hypocrite. Hypocrite. En grec, cela veut dire être un acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Et il s'adresse à eux en leur disant, vous êtes hypocrites, vous jouez un rôle. Ils professent extérieurement d'honorer Dieu, mais ils ne l'honorent pas du cœur. Ce sont des commandements d'hommes qu'ils professent comme si c'était des préceptes qui faisaient autorité, que ça venait d'une autorité divine. Non, non. Alors là aussi, attention, parce que nous-mêmes, nous ne professons pas des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Attention aux règles que nous voulons aussi peut-être imposer, des règles humaines. Nous devons veiller à cela. Donc, je continue, verset 9. Donc, Jésus leur rappelle qu'ils sont habiles à esquiver la loi de Dieu. C'est vrai que des fois, on peut être très habile détourner les choses de Dieu, hein, surtout pour garder leur tradition. Et Jésus va leur montrer un seul exemple. comment leur tradition a anéanti le commandement de Dieu. L'un des 10 commandements, et vous connaissez les 10 commandements, exigeait que les enfants honorent leurs parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Il nous est dit, c'est dans Exode au chapitre 20, verset 12, on ne va pas le lire, mais c'est les 10 commandements. Ce qui voulait dire que c'était un devoir de prendre soin des parents, surtout en cas de besoin. Tu honoreras ton père et ta mère. La peine de mort était prononcée sur quiconque maudirait son père ou sa mère. C'est le verset 10. Le verset 10 de Marc, chapitre 7, il nous dit, « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est corban. » On va y venir. Donc, on a vu que ce commandement qui était d'honorer son père et sa mère, c'était quelque chose d'important dans la loi de Dieu. Le verset 11 à 13. Est-ce que quelqu'un veut relire le verset 11 à 13? Je l'ai lu un peu, mais on va le reprendre.
Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne me laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
Oui. Alors, bon, je vous avoue que j'avais déjà lu ce passage plusieurs fois, je ne me suis jamais penché sur cette tradition qui s'appelait corban. Alors, j'ai un peu regardé. Donc, voilà que les Juifs avaient inventé cette tradition connue sur le thème de Corban, ce qui signifie donner ou consacrer. Le commandement de Dieu était d'honorer son père et sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux, selon leur tradition, une personne pouvait déclarer tous ses biens, c'est-à-dire Corban. Ils pouvaient ainsi se soustraire au cinquième commandement. Corban est un terme hébreu utilisé pour faire allusion à une offrande à Dieu. Si un fils avait de quoi aider ses parents et qu'il prononce Corban, eh bien cela, selon la tradition des pharisiens et des scribes, le fils était exempté de ce commandement de Dieu. Verset 13. Il est dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Par les traditions, ils annulaient la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Et il y a bien d'autres choses qui annulaient la parole de leur par leur tradition. Alors, c'est vrai que j'ai déjà dit, mais je veux le répéter. Attention à nous-mêmes, à chaque chrétien, à chaque église, de ne pas annuler la parole au détriment de nos habitudes, de ce qu'on pense, de nos traditions. Attention, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Et eux, ils avaient donné cette tradition. Les enfants pouvaient, même s'ils étaient riches, qu'ils pouvaient venir aux besoins de leurs parents, et bien ils n'avaient qu'à dire corban, et bien ils étaient exonérés de s'occuper de ces enfants. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu disait. Donc, on voit que vraiment, attention, c'est subtil. C'était comme quoi, ben on donne une offrande à Dieu. Il y a quelque chose de malsain. Alors, je crois que nous aussi, attention. Faisons attention parce que peut-être qu'on a une telle habitude sur quelque chose. On a toujours vécu comme ça. J'ai toujours entendu telle ou telle chose. Mais ce qui compte pour nous, c'est la parole de Dieu. Alors attention à nos règles. Alors, que retenir de cela? Il y a une opposition croissante. Aujourd'hui encore, on privilège les traditions et on oublie les commandements. Le lavage des mains ne font pas partie du commandement de Dieu. Relisons le verset 8. Il est dit, Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Verset 13, là aussi, il nous est dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il n'y avait pas que ça. Oui, attention à ne rien rajouter. Attention à ne rien enlever de la parole. Et il nous est dit dans la parole de n'enlever ni un seul iota dans l'Apocalypse. On peut le prendre ces trois, je sais pas, si vous, je les ai rajoutés après avoir fait les feuilles. Oui, on les voit, Apocalypse 22, 18 à 19, un peut prendre un. Un autre peut prendre Deutéronome, chapitre 4, verset 2, et un autre Proverbe 30, verset 6. C'est toujours bon de le lire.
Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrit dans ce livre.
Merci. Et Deutéronome, chapitre 4, verset 2.
Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits.
C'est clair. C'est très clair. Et ça, les pharisiens devaient le savoir. Proverbe chapitre 30, verset 6.
N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur.
Ah oui. Et c'est pour ça que Jésus leur dit hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Versets 14 à 16 qu'on a lu. Ici, Jésus fait une déclaration importante. Jésus révèle à la foule la vraie source de l'impureté. Alors, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur. Par exemple, la nourriture prise sans être lavé les mains. Ce n'est pas ça qui était impur. Mais Jésus dit, ce qui rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort de l'homme. Lorsque le mal réside dans le cœur, il se manifeste par des paroles perverses, un langage contraire à la vérité de Dieu et à son amour. C'est ça qui souille l'homme. Versets 18 à 19. Ensuite, Jésus va expliquer à ses disciples, loin de la foule, les disciples eux-mêmes étaient un peu perplexes face à l'affirmation de Jésus. Les disciples, eux aussi, considéraient certains aliments, tels que le porc, le lapin ou certains crustacés, comme impurs. Ils étaient eux aussi sans intelligence, il le dit. Les versets 20 à 23, on peut lire les versets 20 à 23. Est-ce que vous voulez relire les versets 20 à 23?
Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme.
Oui, tout à fait. Donc, Jésus explique ici que ce qui souille l'homme, hein, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Les mauvaises pensées, oh combien... Quelqu'un disait, je ne sais pas si je vais bien le dire, maintenant que j'y pense, les pensées, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, elles sont là. Et quelqu'un disait comme ça, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid. Je ne sais pas si c'est bien ça.
Oui, c'est ça, c'est bien tout ça. À fait ça.
Ce qui veut dire que, ouais, on va, des pensées, on les a. Mais attention à ce que nous pensons. J'ai toujours aimé, je me rappelle de Philippiens chapitre 4, verset 8, où il est parlé des pensées. Oh, on va le prendre peut-être. Parce que les pensées, c'est quand même quelque chose, pour moi, qui me perturbe. C'est sûr que souvent, mes pensées vont à l'encontre des pensées de Dieu. On va prendre Philippiens chapitre 4, verset 8, si mes souvenirs sont bons.
C'est ça.
Si quelqu'un là, vous voulez les lire.
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.
Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il est dit, quand il est dit comme ça, là, ce qui mérite l'approbation de Dieu. Alors, vraiment, que nos pensées puissent être dans la même lignée que Dieu. Que nos pensées soient honorables, justes, pures, aimables, vertueux, dignes de louange, soient l'objet de nos pensées. Alors oui, peut-être que nos pensées sont aussi ce qui peut nous souiller. Les pensées, les adultères, les débauchés. Alors peut-être que les adultères, maintenant que j'y pense, on se dit, oh ben moi, non, je ne suis pas adultère. Oui. Mais je crois que dans la Bible, il nous dit, je ne crois pas, j'en suis sûr, que celui qui regarde une femme pour la convoiter, commet déjà le péché. Et parfois, je suis obligé de baisser les yeux. L'été, quand on voit certaines personnes, à l'occurrence des femmes, attention là aussi, ce que peut se passer dans nos têtes. C'est ça qui peut nous souiller. Les adultères, les débauchés, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, l'orgueil, la folie, la jalousie, etc. La liste, elle est grande. C'est ça qui nous souille. Et on peut aussi rajouter les traditions, nos règles, le mensonge, tout ce qui enlève ou rajoute quelque chose à la parole divine. C'est ça qui souille l'homme. Soyons comme le chrétien de Béret. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que c'est Paul qui, quand il, ou Pierre, quand il parlait, qu'est-ce qu'il faisait? Ils allaient vérifier ce qui était dit, si c'était conforme à la parole de Dieu. Eh bien nous, je me dis, ben oui, quand il y a quelque chose peut-être qu'on ne sait pas, qu'on entend une règle, une tradition, de dire, attends, est-ce que vraiment c'est ça qui est dit dans la Bible? Est-ce qu'on veut suivre la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on veut suivre les traditions des hommes, la façon, les habitudes, ce qu'on peut voir, ce qui peut être attirant? Attention. Ouais. Nous devons vérifier les choses dans la parole de Dieu. Alors, pour conclure cette première partie, la leçon que nous devons retenir est celle-ci. Nous pouvons en permanence éprouver à la lumière de la parole de Dieu toute doctrine et toute tradition d'homme, obéir à ce qui est conforme aux Écritures, à l'Écriture, à toute l'Écriture et à rien que l'Écriture. C'est être obéissant à ce que nous dit la parole de Dieu. Rejetons tout ce qui vient de l'homme charnel. Rejetons tout ce qui vient peut-être de nous-mêmes. Parce qu'on a ce sentiment-là, on a cette pensée-là, alors j'agis ou je dis et je parle de telle façon. Non, non. Nos paroles doivent être selon la parole de Dieu. Nous devons y veiller. Oui, rejetons tout ce qui vient de l'homme charnel. Alors, je reviens sur le verset 18. Jésus a dit à ses disciples, vous aussi, quand il s'adresse à ses disciples, Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Verset 18. Hein. Les disciples estimaient parfois que certaines traditions d'hommes n'étaient pas si mal. Et là, je dis, quand Jésus leur dit, mais vous êtes aussi sans intelligence, peut-être que le Seigneur aujourd'hui nous dit, mais tu es aussi peut-être sans intelligence. Attention à nous-mêmes de ne pas nous attacher à certaines doctrines que nous trouvons peut-être pas si mal. Il y a des règles, des lois, des choses qui ne sont pas si mal, tout compte fait. Mais attention, il y a des choses peut-être que nous voyons, c'est pas si mal que ça. Vous savez, des fois on se cherche tellement des excuses, tout le monde le fait, c'est pas trop grave. Ah, je suis pécheur, de toute façon, le Seigneur, il me connaît. Attention à ce que nous avons dans le cœur. Attention de ne pas nous attacher à certaines doctrines que nous croyons. Ah bon, ça, on peut l'accepter. Non. On doit toujours dire, qu'est-ce que l'Écriture dit ? Et rappelez-vous, quand Jésus a été tenté, il a toujours parlé et dit, il est écrit. Il est resté fidèle à la parole de Dieu. Et moi, je me dis, eh bien, restons fidèles aussi à la parole de Dieu. Même s'il y a des règles que nous trouvons pas si mauvaises, hein, non. Après, moi, c'est ce qui m'a parlé en lisant ça. Donc, ça, c'était la première partie. Alors, est-ce que, peut-être en deux mots, je vais surveiller l'heure quand même, est-ce que sur cette première partie, du verset 1 au verset 23, c'est vrai qu'on pourrait dire d'autres choses. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être que vous voulez rajouter en quelques mots qu'on a sauté ou...
Moi, juste pour dire par rapport à ce que tu as dit. En fait, se laver les mains, c'est pas une bonne chose. Hein.
Ah, non, non.
Ça participe à l'hygiène. Mais ce qui est mauvais, c'est en fait une condition de pureté spirituelle. C'est là que ça ne va pas. En fait, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, comme
oui, disais.
Mais en fait, des conditions pour accéder à une espèce de sainteté, c'est là où ça la blesse.
Oui. Oui, tout à fait.
Parce que, bon, ça concerne la chair. Hein. C'est-à-dire, oui, tu peux être malade si tu ne t'es pas lavé, hein, par exemple, avec le Covid, etc. Mais tu ne peux pas dire, je ne me suis pas lavé les mains, donc je suis impur devant Dieu. Mmh. Je ne veux pas me présenter devant Dieu. Voilà. Non, là ça ne va pas.
Merci.
C'est les versets 3-4, où en fait Marc il précise la loi, enfin, c'est des traditions juives, et ça nous montre, c'est aussi deux petits versets qui nous montrent que s'adresser en fait à des chrétiens sans doute de Rome. Et donc il explique un petit peu quelle est la tradition, et en fait nous ça nous aide bien aussi parce que ça nous permet de bien comprendre en fait, il fait cette précision pour qu'on comprenne tout ce qu'il y a derrière, et c'est intéressant. Et après juste aussi, c'est vrai que quand il leur dit que ce qu'on mange, c'est pas ça qui souille l'homme, ça a dû leur faire un choc quand même, parce que eux, depuis enfants, on leur a inculqué ça, et en fait, c'est quand même une révolution, quoi, qu'il est en train de... Et à la fois, c'est pas une révolution, c'est un recentrage, en fait, parce que tout ce qu'il dit, derrière, c'est évident, c'est-à-dire qu'en fait, ben oui, on s'est focalisé sur la forme, alors que c'était le fond qu'il fallait... Mais c'est vrai que ça devait leur faire un choc, de dire, mais c'est pas important ce qu'on mange. Ouais.
Et surtout qu'il est dit comme ça qu'en plus il faisait d'autres choses, bon, c'est pas mentionné là, mais ça rajoutait à beaucoup de choses. Ouais. Très bien, alors on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, j'ai marqué une païenne bénie pour sa foi. Alors je vous propose de lire le verset 24 à 30. Quelqu'un veut bien le lire?
Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » L'homme lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti.
Ouais, merci. Alors, j'aime bien, moi, quand je dis quelque chose, ça m'aide à comprendre, je l'ai déjà dit, de se mettre dans le contexte. Imaginons que on est là dans cette histoire. Jésus par là, il nous est dit, il part de là, c'est-à-dire il part certainement de Capernaüm, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, apparemment, il ne part pas pour exercer son ministère auprès des personnes. Il voulait sans doute avoir un moment avec ses disciples, puisqu'il nous est dit qu'il voulait presque rester caché. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme dont le nom n'est pas mentionné et dont la fille était possédée d'un esprit impur. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Cette femme vient immédiatement, elle se jette aux pieds de Jésus. Alors, on imagine la scène un peu. Cette femme se jette aux pieds de Jésus. Connaissant le cœur du Seigneur, son cœur a dû être touché. Je crois que le Seigneur aime quand quelqu'un vient à lui, quand quelqu'un se jette à ses pieds, quand quelqu'un même veut le toucher. Le Seigneur, il est ému. C'est un Dieu de miséricorde, de compassion. Alors, c'est vrai que cette femme, elle se jette aux pieds de Jésus, et par cette expression, on voit un profond respect qu'elle a. Elle implore Jésus à ce qu'il chasse le démon hors de sa fille. Et on peut dire que les nouvelles allaient très vite. C'est vrai, il n'y avait pas de facteur à l'époque, mais enfin, cette femme-là, elle sort je ne sais pas d'où, elle avait peut-être entendu parler de Jésus, elle avait peut-être même vu les miracles qu'il avait fait. Enfin, toujours est-il, je ne sais pas comment elle a su, mais elle va vers lui, elle se jette à ses pieds, elle implore. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que Marc ici insiste sur le fait que la femme n'était pas juive. Elle était grecque, non de Grèce, mais plutôt païenne. Au verset 26. Et on a la même histoire dans Matthieu, au chapitre 15, verset 22. Mais on ne va pas le lire. Vous le lirez chez vous, parce que moi, je trouve que Matthieu, d'abord, il appelle, il lui donne un nom. Il dit que c'est une femme cananéenne. Il le dit. Et je trouve que Matthieu donne un peu plus de détails que Marc. Mais bon, nous sommes dans l'évangile de Marc. On va rester dans l'évangile de Marc. Mais vous pourrez lire cette histoire chez vous, là, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22. Bon, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir là? On s'aperçoit qu'il semble d'abord que Jésus la repousse. D'ailleurs, dans Matthieu, il est bien dit qu'il ne dit pas un mot et que même les disciples, ils demandent à Jésus, eh bien, renvoie-la. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais cette femme, elle insiste et elle crie « Aie pitié de moi !» C'est toujours dans Matthieu, ça. « Aie pitié de moi !» Elle se jette aux pieds, elle crie « Aie pitié de moi !» C'est une femme qui insiste vraiment auprès de Jésus. Et Jésus va répondre, il répond un peu, quand on lit ça, on se dit « Waouh, c'est un peu dur !» Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais surtout de la part du Seigneur.
Oui.
Qu'est-ce qu'il dit? Il répond, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs interprétations de la réponse de Jésus. Mais le verset 27, Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Waouh! Alors, peut-être qu'ici, les enfants, ça représentait Israël. Et les petits chiens peut-être représentaient justement les païens. Mais ces paroles, quand même, elle qui se jette aux pieds, qu'elle a fait tout pour aller rencontrer le Seigneur, voilà ce qu'il lui dit. Ça semble quand même assez dur. Les païens étaient considérés comme des chiens. Ici, Jésus cherche peut-être à éprouver la foi de cette femme. La foi là, et la repentance qui est, parce qu'elle est venue au pied de Jésus. Et je pense que Jésus, en disant ça, il veut tout simplement l'éprouver. Jésus, à cette époque, était tourné vers Israël. En tant que païenne, elle n'avait aucun droit. Aucun bienfait de la part de Jésus. Mais c'est une femme extraordinaire parce qu'elle est prête à accepter cette vérité. Elle aurait pu, imaginons la scène, hein, et elle aurait pu dire, ah bon, ok, je me suis trompé, alors, bon, mais pardon, je m'en vais. Ou elle aurait pu être vexée dans son ego, je ne sais pas. Elle est prête à accepter cette vérité en disant, oui Seigneur, verset 28, cette femme accepte son verdict, c'est comme si elle accepte qu'elle soit un petit chien. Mais elle sait que les petits chiens, c'est-à-dire les petits chiots, mangent les miettes sous la table que les enfants font tomber. Quelle profondeur de foi! Elle me touche, moi, cette femme.
Elle
ne s'est pas laissée démonter. Elle a continué, elle a persévéré.
Elle a mis son orgueil.
Ouais. Eh oui, justement, elle ne s'est pas vexée. Ouais. Oh, combien de fois, nous, on nous dit quelque chose. Waouh! Qu'est-ce que t'as dit, toi? Hein? Non. Elle est extraordinaire, cette femme. Profondeur de foi, de repentance. En fin de compte, elle demande à Jésus de pouvoir ramasser quelques miettes des bienfaits donnés aux Juifs. Quelques miettes. Oh. Puissions-nous ramasser... Nous n'avons pas que des miettes, nous avons un plat complet. Je vous promets que cette femme m'a touché. Oui, elle demande à Jésus de ramasser simplement les bienfaits donnés aux Juifs. Ça, c'est une déclaration de foi. C'est pour ça qu'en titre, hein, j'ai marqué une païenne bénie par sa foi. Parfois, il n'y a pas besoin de 50 000 choses. De faire 50 000 choses pour, je ne sais pas, pour se faire montrer, non. Une foi vraie et sincère suffit à Jésus pour guérir la fille de cette femme. C'est le seul miracle rapporté par Marc que Jésus a accompli de loin, hein, sans donner aucun ordre verbal. Mais, moi, ça me pousse vraiment à me dire, ben ouais, continuons à nous jeter aux pieds du Seigneur, même si on ne comprend pas tout. Hein, elle n'a pas cherché à comprendre ce que Jésus lui a dit. C'est une femme extraordinaire, une foi vraiment sincère. On va quand même avancer, pardon, parce qu'il faut que je surveille l'heure. Oui, on va passer au troisième partie, la guérison d'un sourd muet. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire les versets 31 à 37?
Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Euphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds parler de lui.
Oui, merci. Alors là, nous avons encore un autre fait. Hein. Nous avons ici la guérison d'un sourd et muet. Alors c'est vrai que là aussi, Marc est le seul à raconter ce miracle, à le détailler du moins. Par contre, dans Ésaïe au chapitre 35, parle du temps messianique. Ésaïe verset 35, verset 5, il est dit « Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront. » Alors, voilà que l'on, maintenant qu'on amène une personne à Jésus qui est sourde et qui est bien sûr, qui a du mal à parler. Il faut savoir que, et c'est vrai que je me souviens avec Joël, puisqu'elle est, ben d'abord on n'appelle plus les sourds maintenant, on appelle les malentendants. Hein. Ça fait mieux. Le résultat est le même. Hein. Non, mais ça, les choses ont changé. Parce qu'il faut savoir qu'un sourd, à sa naissance, il est automatiquement, il est muet. Ben, s'il n'est pas muet, il parle très mal. Il parle, ben, peut-être que vous en avez rencontré, ben, je ne sais pas si je les imite très mal, mais voilà, c'est leur façon de parler. Et il faut savoir aussi que à l'époque, au début, quand on ne savait pas qu'il est sourd ou muet, eh bien, toutes ces personnes-là, on les mettait dans une maison de fous. Parce qu'ils étaient considérés comme des fous. Parce que quand on leur parlait, ils ne répondaient pas. Et quand ils voulaient parler eux-mêmes, ils faisaient des grands gestes. Wah, 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 wah. Donc, on les mettait dans des maisons de fous. Alors, verset 31. Jésus s'en alla dans le territoire de Tyr. Alors, Jésus quitte la région de la Galilée et va vers la région de Tyr. C'est une région qui était non-juive. Hein. Et ce qu'on peut dire, c'est que Jésus est venu aussi vers les autres peuples. Jésus va aussi vers les peuples païens. Jésus est venu pour tout le monde, pour tous les peuples. Et versets 32 à 33, même dans ce territoire, Jésus était populaire. On avait entendu, ou peut-être vu aussi. On lui amène un sourd, et on le prie de lui imposer les mains. Alors, Jésus prend le sourd à part, il le prend, là il nous est dit, loin de la foule, et c'est vrai que parfois Jésus guérissait loin de la foule, et parfois il guérissait aussi devant la foule, comme il avait guéri, on l'avait vu ça la dernière fois, à Génézareth, où il guérissait devant la foule, et même dans les places publiques. Donc, Jésus, là, il prend le sourd, il le prend à part. Alors, comment Jésus va procéder pour guérir ce sourd qui est muet? Alors, on se rappelle que certaines personnes désiraient toucher Jésus. Là aussi, on l'avait vu. Hein, le simple fait de toucher même la frange, le bord de son vêtement était guéri. Donc, il y avait des personnes qui voulaient toucher Jésus. Mais ici, dans ce texte, c'est Jésus qui va toucher le sourd. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, peut-être que la première raison, c'est que le sourd, lui, bien sûr, il n'entendait pas. Il fallait le toucher de Jésus. Or, je me disais que parfois même, nous, on a besoin d'être aussi touchés par Jésus, qui pose ses mains aussi sur nos oreilles, parce que combien de fois il est dit dans la parole, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Et c'est vrai que parfois on a des oreilles, on entend, on voit les choses, et qu'est-ce qu'on fait? Quand la semaine dernière on disait que les gens qui étaient à Génézareth là, mais ils étaient pressés, ils avaient de l'enthousiasme pour aller là où Jésus il était. Parce que nous avons le même enthousiasme aussi de rechercher, de nous approcher de Dieu. Donc là c'est Jésus qui touche le sourd. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il touche le sourd. Ensuite, il toucha la langue avec sa salive. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la salive. Hein. C'est vrai qu'à cette époque, quand même, on associe aussi la salive à la guérison. C'était en quelque sorte de la thérapie hein, qui faisait, où certains avaient recours justement à la magie. Mais là aussi, Jésus n'a aucun recours à la magie. Pas des choses de la magie, ce que Jésus faisait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a dit qu'il lève les yeux au ciel, comme il le faisait souvent, hein, comme il avait fait la multiplication de pain, comme il le fait quand il prie. il lève les yeux, puis il soupira et il dit « Ephphatha ». C'est-à-dire « Ouvre-toi ». Alors, il s'adresse à qui ?« Ephphatha », ça veut dire « Ouvre-toi ». Il nous est dit « Aussitôt les oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia aussi ». Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que les oreilles obéissent à l'ordre de Jésus. Ouvre-toi. Quelle autorité même, il a l'autorité même sur les organes humains. Dieu a toute autorité, Jésus a toute autorité sur la mer, sur le vent, sur la tempête, sur les guérisons, sur les organes humains. Waouh! C'est quand même extraordinaire. On n'oublie pas le texte d'Ésaïe 35, verset 5. On va le prendre. Verset Ésaïe 35, verset 5 et 6. Si quelqu'un l'a de suite, qu'il peut le lire, Ésaïe 35.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang.
Ouais, merci. Sept siècles, je crois que c'est à peu près sept siècles, avant, qu'est-ce qu'il est dit? La langue du muet éclatera de joie. Le sourd se met à parler correctement. La parole de Dieu est la vérité. Les prophéties sont réelles. Jésus ordonne de rien dire. Ne dites rien, mais les choses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se dit. Verset 37. Ils étaient étonnés, ils disaient, il fait tout à merveille, tout ce qu'il fait est parfait. Bien, cela rappelle aussi ce qui est écrit dans la Genèse au chapitre 1, dès le chapitre 1, verset 31, où il est dit, tout ce que Dieu avait fait était très bon. Tout ce que Dieu fait, même si nous, on aimerait que les choses ne soient pas dans certaines situations comme on voudrait. Tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe pas. Merci Seigneur. Merci parce que, non, tu ne te trompes pas. Tu es Dieu. On le voit à travers les écrits. Tout ce qui est écrit pour nous, c'est pour nous enseigner. Dieu a autorité sur toute chose. Dans ce que toi tu vis, Dieu, il est là. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Et on voit que dans ce territoire de Tyr, eh bien, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus a à cœur tous les peuples. Jésus aime toutes les nations. Il est plein de compassion pour tous les hommes qui s'approchent de lui, qui se jettent à ses pieds, qui vont vouloir le toucher, qui crient à lui. Dieu est miséricorde. Même les non-juifs, même les impurs, les malades sont au bénéfice de la croix. Nous sommes au bénéfice de la croix, nous aussi. C'est la bonne nouvelle en terre païenne. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes en terre païenne aussi, où la bonne nouvelle est rejetée, mais il y a encore des âmes perdues. Alors, soyons des disciples, afin d'apporter au Seigneur d'autres personnes, parfois sourdes, muettes, des personnes qui ne le connaissent pas encore. Faisons comme ce qu'on a vu la dernière fois, ils apportaient sur leur dos les malades auprès de Jésus. Apportons, prions pour nos bien-aimés, prions pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Soyons vraiment des disciples qui ont la foi, comme cette femme qui s'est jetée auprès du Seigneur. Et qu'elle a laissé, comme on a dit, son ego derrière. Oh, laissons le Seigneur à la première place. Vraiment que le Seigneur nous conduise. Et je dis vraiment que nous avons, nous, un privilège par rapport à ceux qui n'avaient pas encore la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas pu s'approcher de Jésus. Mais il y a encore temps. On peut toujours amener au Seigneur des personnes. Que le Seigneur vraiment nous encourage à avoir l'amour des âmes perdues. Voilà. Je crois que nous sommes le petit poil. Donc voilà. On va peut-être terminer par la prière.
Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette soirée, pour ces moments, Seigneur, passés autour de ta parole, pour ton enseignement, Seigneur, tellement précieux. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander de nous aider à nous rappeler tout cela, Seigneur, et ne pas être comme ces pharisiens qui cherchaient à imposer des choses qui n'étaient pas de toi, Seigneur, mais au contraire, toujours considérer ta parole et la mettre, Seigneur, en priorité dans nos vies. Seigneur, que nous ayons aussi cette foi comme cette personne, Seigneur, cette femme, Seigneur, et vraiment qui a accepté, Seigneur, ta parole, même si elle paraissait dure, Seigneur, mais qu'il a accepté parce qu'elle vient de toi. Et Seigneur, tu as honoré sa foi. Merci, Seigneur, vraiment de pouvoir nous repasser, Seigneur, ce que nous avons entendu ce soir, ce chapitre 7 de Marc, Seigneur, et qu'il soit vraiment bénéfique pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci de continue à bénir les moments qui vont suivre. Raccompagne, Seigneur, chacun, soit aussi avec tous nos bien-aimés. Nous voulons encore, Seigneur, t'apporter ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur, dont nous avons mentionné tout à l'heure. Merci de poser encore ta main sur chacun. Amen.
Amen. Amen.